France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le permis de conduire.
Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le code ?
Le code, c'est...
Eh ben, c'est la loi.
Voilà.
Bon, nous allons voir si vous la possédez bien. Parlez-moi des articles 79, 80, 81, chapitre 6 des décrets numéro 58, 1217 du 15 décembre 1958-1960 et 14 du 19 janvier 1960. Je vous écoute. Eh ben, où allez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ?
Je rentre à la maison.
L'épreuve de code est de plus en plus difficile. Il faut aussi répondre maintenant à toutes les questions induites par les soucis de sécurité routière, du genre, le risque de s'endormir au volant est-il plus important à 10h ou à 18h ou encore à l'heure de la marche de l'histoire ? Ensuite, l'épreuve de conduite fait trébucher un candidat sur deux, ajouté aux primo-arrivants, ceux de plus en plus nombreux qui doivent repasser l'examen, c'est l'engorgement. Les auto-écoles insistent sur les inconvénients de la situation, mais taisent le profit qu'elles en tirent. Le coût d'un permis aurait triplé en 15 ans en moyenne. Il oscille entre 1500 et 3000 euros. Et mieux vaut ignorer le nombre réel de ceux qui roulent sans le précieux talisman. On s'est étonné que 15 jours avant le scrutin, la plupart des candidats à la présidentielle aient embrayé sur le sujet. Il illustre si bien les blocages traditionnels de la France. Il permet si bien les échappées habituelles. Tout privatisé, tout nationalisé. Et peut-être tout simplement les 10 prétendants sont-ils saisis des mêmes angoisses que les 135 000 candidats au code et à la conduite. Sauf que la proportion d'échecs sera autrement forte à la présidentielle. 9 sur 10 seront, comme dit le canard enchaîné, victimes de notre permis déconduire. Mathieu Fleunot, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Titulaire d'un permis de conduire obtenu grâce à de longues leçons.
Non, très peu, paradoxalement. Et là, je vais apparaître à certains égards quelque peu suspect. Je l'ai eu au bout de 11 leçons et pour un prix qui est bien modique par rapport à ce que vous avez évoqué.
Bravo, historien de l'automobile et mieux encore des usages de l'automobile. Comment dites-vous dans les cultures du volant, l'auto-refoulement, ce sont deux de vos derniers livres. Vous êtes spécialiste de l'automobilité.
Oui, de l'automobilisme, c'est-à-dire tout l'ensemble effectivement des usages, tout le système qui va avec, tout effectivement les questions qui touchent à l'apprentissage de cette technique qui est avant tout sociale, politique et culturelle.
Que la question du permis surgisse dans la campagne électorale ne vous étonne pas parce que vous pensez que l'auto n'est pas dépassée.
L'automobilité, les besoins liés au droit à la mobilité qui est aujourd'hui est reconnu dans les sociétés contemporaines, évidemment, c'est un enjeu pour le travail, c'est un viatique, c'est un facteur important de l'autonomie individuelle.
Alors, top départ, notre émission va durer grosso modo le temps de l'épreuve de conduite. On commence en 1891, 92, 93.
Oui, en effet. On parle du premier certificat de capacité qui est délivré à Léon Serpollet, glorieux pionnier de l'automobile qui dispose d'ailleurs d'une statue. Elle est très méconnue dans Paris, elle est place Saint-Ferdinand dans le 17e arrondissement. Elle est très maltraitée, les pierres vieillissent très mal sous les assauts des pigeons. Toujours est-il que c'est là que tout commence.
Ensuite, Jacques Sigal me signale que c'est en face de chez Hertz.
C'est bien possible, oui, il y a une compagnie de location, il y avait des garages. C'était l'arrondissement le plus automobilisé de la capitale de toute façon, ce 17e. Mais l'affaire commence véritablement lorsqu'elle apparaît dans les ordonnances de la préfecture de police. Et donc en 1893, là pour la première fois, on parle de certificat de capacité qui va devenir un permis de conduire au tout début du siècle.
La responsabilité en incombe au service des mines. On va retrouver les ingénieurs des mines tout au long de notre histoire.
Oui, en effet. Plutôt distant d'ailleurs à partir d'un certain moment, à partir du moment où l'automobile cesse d'être quelque chose qui requiert une initiation technique aboutie, approfondie. Et donc les ingénieurs des mines vont prendre en quelque sorte un peu de recul par rapport à cette pratique qui devient de plus en plus banale. Mais au départ, c'est quelque chose qui exige des chauffeurs et bien une compétence technique réelle. Et donc qui doit être validée comme telle par des gens compétents techniquement.
Oui, parce que de suite sont signalés les risques que font courir aux autres quelques dangereux fous roulants dans leur pétaradante machine.
Prenons le cas de Monsieur Piéton. C'est un très brave homme, courtois, ponctuel et honnête. Monsieur Piéton ne ferait pas de mal à une mouche, il n'écraserait même pas une fourmi. Mais Dès qu'il est au volant, Monsieur Piéton est envahi par un irrésistible sentiment de puissance. Sa personnalité tout entière se métamorphose. Il se transforme instantanément en un monstre incontrôlable, en un conducteur démoniaque. Monsieur Piéton est devenu Monsieur du volant, l'automobiliste.
Hé hey, tu crois peut-être que la route t'appartient?
Bien sûr que la route m'appartient, pense-t-il. Ah, il y en a qui veulent faire la course, hein? Accrochez vos ceintures, ça va chauffer. Quel dommage, monsieur du volant. Vous avez cassé votre jouet. Conduisez prudemment, avec courtoisie et...
En la ferme!
Dingo, c'est une leçon de morale de Disney. Tout de suite, il y a une morale automobile.
Ah, c'est absolument fondamental. Il y a une éthique du conducteur qui est réclamée par les premiers automobilistes. On est là dans la logique, dans la lignée, je dirais, des manuels d'équitation, où il y a une forme de rapport intelligent avec la monture. Et donc l'automobile, pour certains, devrait être cet objet de distinction, d'élégance. Mais évidemment, le fait de conduire ne suggère pas nécessairement, voire c'est l'inverse qui se passe, ne suggère pas nécessairement cet art de bien conduire. Et ça permet de rappeler que l'un des premiers théoriciens de l'affaire est Louis Baudry de Saunier, un aristocrate qui avait publié dès le début du siècle un ouvrage constamment réédité qui s'intitulait justement « L'art de bien conduire une automobile ».
Mais à ceux qui se conduisent mal avec obstination comme Dingo, tout de suite sont proposées ou imposées des solutions de retrait, de suspension, d'annulation du certificat?
Alors c'était effectivement quelque chose de juridiquement très complexe. On va chercher à sanctionner durablement ou temporairement, eh bien, ou définitivement avec l'annulation du permis, quelqu'un qui se conduirait mal. Donc effectivement, on est loin là de la simple leçon de moralité. On va rentrer dans un sujet, et la première archive le suggérait suffisamment, dans un sujet où la sédimentation juridique impose véritablement de bien connaître les règles.
Alors on va continuer notre parcours dans la sédimentation juridique, puisque c'est le mot que vous employez. La guerre de 14, Walt Disney l'a fait d'ailleurs en partie en France. C'est pendant la guerre de 14 que ceux qui sont dans les armées, comme Walt Disney, peuvent passer leur certificat gratuitement.
En tout cas, dans l'armée française, effectivement, vous avez là la délivrance du permis qui est octroyée aux autorités militaires. Pour une bonne et simple raison, c'est que la Première Guerre mondiale est le premier conflit véritablement motorisé et industrialisé de cette échelle. Et dans ce contexte, eh bien, on a dit d'ailleurs que c'était la victoire du camion français sur le chemin de fer allemand. Vous êtes là dans une logique où la guerre va être gagnée par le système automobile. Je rappellerai simplement les taxis de la Marne qui vont familiariser les poilus avec les automobiles. Les camions Berliers, notamment ceux de la Voie Sacrée à Verdun, mais aussi ensuite les chars d'assaut Renault qui sont des automobiles à leur manière.
Donc on forme les soldats, puis on va continuer à les former d'ailleurs dans l'armée française jusqu'à la fin du service militaire. C'est pour ça qu'un certain nombre de candidats à la présidentielle se disent que...
Un service civique permettrait peut-être de donner cette possibilité d'octroyer à nouveau un permis dans un cadre qui ne doit pas simplement faire sourire. C'est-à-dire que le permis de conduire, c'est le moment où l'on le passe, c'est l'un des rares lieux de brassage social réel de la société française contemporaine. Le service national ayant disparu, avec tous les biais d'ailleurs qui viciaient en quelque sorte ce brassage social. On sait bien qu'un agrégé d'histoire ne faisait pas le même service national qu'un jeune issu de certains quartiers, pour le dire avec euphémisme. Toujours est-il que cette idéologie du brassage social, elle était importante derrière le service national militaire et elle est toujours importante derrière le passage du permis de conduire.
Je vois passionné par l'actualité Mathieu Flonneau, mais revenons à la sédimentation, comme vous dites. C'est donc après la Première Guerre mondiale que le certificat est remplacé par le permis de conduire, 1922, avec les catégories, là, le véhicule de tourisme, motocyclette, camion.
C'est le code de la route, et ce qui est très intéressant.
Et le code de la route est formalisé aussi peu à peu.
En effet. Donc en 1922, vous avez le premier texte qui a été retardé par la Première Guerre mondiale, naturellement, qui arrive sur les fonds baptismaux de la puissance publique. Toujours est-il que vous avez évoqué un élément important. Le permis va être diversifié, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre à conduire un camion, et ça paraît évident aujourd'hui, de la même manière que l'on apprend à conduire une motocyclette d'une certaine cylindrée. Et donc là, vous avez une forme de, j'oserais le mot, de structuralisme de l'automobile, puisque l'on part d'un tronc commun et les choses vont se diversifier. Et on va rentrer dans ce que j'appelle les mondes de l'automobilisme, c'est-à-dire un univers vraiment pluriel où se côtoient différents usagers.
Structure importante, les officines d'apprentissage, qui se formalisent elles aussi après la Première Guerre. Nous avons ici un son qui évoque la situation en 1939. Quand l'examen du code prend une forme déjà extrêmement élaborée. Alors, il y a des moniteurs pour l'apprentissage et des inspecteurs pour faire passer l'examen.
L'examen est lui-même formalisé et les automobiles sur lesquels on apprend à conduire deviennent des automobiles à double commande, ce qui exige la professionnalisation des officines qui donnent le permis de conduire.
Odette Laure, ici, a besoin d'une paire d'amis avant l'examen.
Comment il est l'examinateur ?
Peau de vache. Il en a déjà qu'elle est 7.
7 ? C'est pas possible ! Non, c'est pas possible.
Mais réfléchis, c'est bon signe.
Ah oui, c'est bon signe.
Ah, s'il avait déjà accordé 7 permis, là, d'accord, ça serait moche. Mais maintenant, il a son compte de refus. Et puis, figurez-vous, j'ai une combine. J'ai fait 3 fois le parcours dans ma voiture derrière 3 candidats.
Je connais tous tes dadas.
Ah, sacré Jeannot, ouais.
Il connaît tous ses dadas.
Dans la ligne droite, il les fait monter à 50.
À 50, mais c'est pas possible, je perds tout le contrôle de ma voiture.
Mais laisse parler ton frère.
Toi, ma cocotte, tu ne pourras pas monter à 50.
Bon, bah alors, il va me recaler.
Mais non. C'est ça, le premier truc. À hauteur du deuxième bec de gaz, il nous traverse. Donc, tu ralentis.
Obligé.
Mais je traverse devant Odette.
Mais oui, comme ça, elle est étourdie en lisant le journal. Et en plus, il aura l'impression qu'elle a du réflexe.
Mais pourquoi moi? Pourquoi toujours moi dans les situations risquées? Pourquoi pas toi?
Mais parce que moi, c'est le deuxième truc. 100 mètres plus loin... Je déboîte du trottoir avec ma voiture. Donc, elle ralentit encore. Et je reste devant elle jusqu'à la fin. Je la guide, je la freine, je lui dégage le terrain, etc.
C'est pas idiot, ça.
C'est comme si tu l'avais, ton permis.
Enfin, il y aura beaucoup moins d'intérêt à passer le permis pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la circulation est extrêmement restreinte par des permis spéciaux.
Oui, en effet. Et l'essence ayant mauvaise odeur à cette période, c'est-à-dire que l'essence, ceux qui en bénéficiaient, la recevaient eh bien, de l'occupant ou des autorités de Vichy. Naturellement, l'automobile a mauvaise presse à cette période-là. Et l'apprentissage de la conduite eh bien, est marginal, je dirais. Il revient en force au lendemain de la libération.
Et c'est la fin des permis spéciaux qui, eux aussi, avaient mauvaise presse. Parce que quand on en disposait... On faisait figure, à tort ou à raison, à la libération de favoris des Allemands.
Après 5 ans d'existence, le SP est mort. Paix à ses cendres. Et tous les possesseurs de voitures ont poussé un soupir qui n'était pas de regret. Une voiture et le droit de rouler, quelle chance! Maintenant, savoir si le droit de rouler permet véritablement de rouler. Mais comme 5 ans d'attente ont changé les choses. Aux yeux du chauffeur revalorisé, l'agent, la rue, la circulation ont vraiment pris un ton nouveau. Le SP est mort. Vérifiez votre assurance.
Alors ensuite, à la libération, la notion de conduite libre que... définissait cette archive, va bientôt être recouverte par beaucoup de contraintes nouvelles, non ?
Oui, en effet, on voit apparaître des questions de sécurité routière qui vont progressivement se formaliser dans une politique publique du fait eh bien, de l'insécurité routière et du fait de l'augmentation de la sinistralité et de ce que les anglo-saxons appellent les fatalities, c'est-à-dire les accidents mortels de la route.
Alors c'est joli votre mot de sinistralité. On va reprendre les choses telles qu'elles se passent maintenant en 2 temps. Dans l'examen. Les questions de code se sont peu à peu transformées parce qu'on y a mis des questions liées à l'environnement. Sur une route vallonnée, pour faire des économies, il est préférable d'utiliser, d'après vous, le régulateur de vitesse ou le limiteur de vitesse ?
Alors, je ne vous répondrai pas. Je n'ai pas révisé mon code Rousseau qui date de 1937 d'ailleurs, mais ces questions-là n'étaient pas des préoccupations de l'époque. En effet, ouais. Elles sont contemporaines.
J'ai perdu une de mes lentilles. Je peux continuer ma route. Alors, on continue avec ces lunettes de secours, avec des lunettes de soleil non correctrices ou sans lentilles.
Vous n'êtes pas très charitable avec un examen qui a toute sa légitimité, évidemment.
Mais non, n'était déjà pas charitable Jean-Yann, qui nous raconte comment, après la Deuxième Guerre mondiale, se passe donc la première épreuve.
Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Monsieur, vous vous trouvez sur une route départementale.
Ah, ben, ça m'étonnerait.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. Mais... J'y vais jamais sur les routes départementales. Ah, mais... C'est plein de boue et ça sent mauvais.
Mais, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale ?
Non. Je suis pas sur une route départementale, je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. J'ai les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue.
Mais en admettant...
Ah, Je vais me le farcir.
Quoi?
Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Est-ce que je vous en pose? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Aujourd'hui, le permis de conduire, ce n'est pas une formalité, c'est même un sujet de la campagne présidentielle. Mathieu Fleunot est l'invité de la marche de l'histoire qui publie récemment chez Descartes le refoulement.
L'auto-refoulement,
j'allais dire le refoulement automobile. Mais c'est sans doute le sketch de Jean-Yann avec Laurence Riesner qui influait sur mon vocabulaire. Ce sketch, on va même le retrouver projeté au Louvre dans la grande série que Jean-Philippe Toussaint consacre à ses propres films, à ses lectures et aux œuvres annexes. Alors donc, on a un examinateur. Rappelez-nous donc, depuis quand il y a un inspecteur? C'est un emploi public?
Alors, l'emploi de validation du document administratif, lui, est public, mais évidemment, la formation, elle, est privée. Et donc, vous avez effectivement cette double structure qui est problématique, qui est très révélatrice d'un certain modèle français, si l'on peut dire. Et à partir de 1924, le service des mines s'est complètement libéré de cette charge et la dévolution de ce service a été donnée à ces unions nationales du tourisme automobile, de l'automobile et du tourisme. Et donc, ce sont des officines privées.
Est-ce que les officines privées et les inspecteurs jouent un rôle dans la construction du problème de la sécurité routière qui intervient donc après la Deuxième Guerre mondiale?
C'est-à-dire que il y a des questions d'engorgement, il y a des questions de validation, il y a des questions de groupe de pression, en effet, et c'en est un. Il y a toujours des anecdotes par milliers, celle de Jean-Yann en est une, hein. Mais le permis de conduire devient quelque chose qui est révélateur du fonctionnement de la société française, en effet.
Mais les groupes de pression les plus efficaces pour la construction d'une problématique de la sécurité routière, c'est plutôt les assurances.
Les assurances, en effet, et puis derrière on trouverait aussi donc la prévention routière qui apparaît en 1949, on trouverait aussi l'Union routière de France qui a intérêt à bon usage du réseau routier français et à ce que celui-ci n'occasionne pas trop de victimes de la route.
Vous parliez de sinistralité. Est-ce que dans la construction de cette problématique, le nombre des accidents a joué un rôle? On accuse de dramatisation les acteurs de la sécurité routière. Mais enfin, le problème était dramatique après la Deuxième Guerre.
Et le problème est devenu effectivement tout à fait dramatique. L'acmé de la courbe des morts sur la route, c'est 1972, c'est 16 000 morts. C'est plus que la guerre d'Algérie, quand même, il faut avoir cette échelle en tête. Et c'est à cette période-là que l'État, donc, avec quelques tables rondes qui ont précédé, décide d'imposer une véritable politique publique de sécurité routière dont on va voir les tenants et aboutissants.
Pour témoigner du danger et de cette acmé de la sinistralité, le film « Flic » ou voyou. Alors nous sommes maintenant au moment du deuxième examen, l'examen de conduite.
Monsieur Agostinelli.
Oui.
Bravo, monsieur Agostinelli. Vous n'avez pas mis votre clignotant. Ben, si vous commencez comme ça, vous n'aurez jamais votre permis de conduire. Oh, 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 l'usage de l'avertisseur est interdit en ville. Refus de priorité, excès de vitesse.
T'as vu comme ils conduisent? On donne vraiment le permis à n'importe qui.
Sens interdit. Et allez donc. Ah, voilà la police. Eh ben, on va vous retirer votre permis avant même que vous l'ayez. Bon, ben, vous êtes recalé.
Oh, vous êtes dur.
Oui, dans les représentations, on le constate, la vitesse est désormais totalement périmée. En 1952, l'un des rééditeurs du livre de Louis Baudrixonnier que j'ai évoqué tout à l'heure avec l'art de bien conduire, appelait ça le nouvel art du volant et le sous-titre était accéléré. On ne penserait plus aujourd'hui évidemment à un tel sous-titre pour un ouvrage qui visait à exalter la bonne manière de conduire.
exhalé. Alors, les odeurs d'alcool jouent un rôle dans la construction de la problématique de la sécurité routière.
Bah oui, formellement, dans la réforme des ordonnances routières, c'est en 1958 que l'alcool est véritablement condamné, est véritablement pénalement réprimé. Et donc, on est là dans une logique qui, effectivement, contemporaine d'autres débats, de ce débouilleur de crue, etc. Mais on est dans une logique de résistance d'un lobby français des alcooliers.
Parce que vous n'avez pas parlé du rôle dans la problématique de la construction de la sécurité routière des parlementaires qui, depuis la 4e, les chrétiens démocrates du MRP, les gaullistes, c'est aussi d'autres.
Mais tout député est sollicité.
Sur le sujet.
Tout député est sollicité par ses administrés et on a la sécurité routière que l'on mérite. Il faut être très clair là-dessus.
Alors, les années de la fin de la 4e République et du début de la 5e, où des ordonnances permettent maintenant de sanctionner la conduite en état d'ivresse.
Avec les beaux jours, les véhicules reprennent la route en plus grand nombre. Attention aux accidents dus à des repas trop copieusement arrosés. Depuis cette année, une prise de sang est obligatoire en cas de blessure, même légère. L'officier de police qui fait le constat de l'accident rédige une fiche de comportement. Le médecin appelé sur les lieux procède à la prise de sang avec toutes les garanties désirables. Le prélèvement mélangé à un produit anticoagulant est réparti dans deux tubes scellés en présence du médecin et de l'intéressé. Depuis le mois de janvier, plus de 500 prélèvements ont déjà été pratiqués, dont 120 pour le département de la Seine. Conducteur, attention à votre permis de conduire. Buvez avec modération. N'attendez pas d'être privé de votre voiture pour méditer ce bon conseil.
Vous notiez, Mathieu Flonneau, la précaution quand même qui est prise en matière de liberté. Des contre-expertises sont possibles. Il y a deux tubes et pas seulement un. Quand la sécurité routière se constitue-t-elle en organisme interministériel?
Alors, très clairement, c'est à partir de 1972-73. La conjonction avec la crise économique est assez intéressante parce que cela va aider en quelque sorte à faire passer la pilule des limitations de vitesse. Les premières sont discutées et appliquées justement à cette période. Et la construction de la sécurité routière se fait sur trois piliers. Hein. La lutte contre la vitesse, la question de la ceinture de sécurité, à l'avant d'abord puis à l'arrière un peu plus tard, et puis la question de l'alcool.
La Sainte Trinité en matière de limitation de vitesse, 90, 110, 130, c'est 74.
Alors oui, il y a des variations. On voit apparaître ensuite le 50 en ville, on voit apparaître d'autres...
Et la ceinture de sécurité, c'est 1975.
On est dans ces années-là.
Georges Pompidou n'était plus là, qui ne supportait pas l'idée d'une ceinture de sécurité. C'est en 1969, en revanche, sous Georges Pompidou, qu'est imaginé le permis la plaque A qui est mise sur l'automobile de celui qui n'est qu'un nouveau titulaire du permis, qui ne peut pas dépasser les 90 km/h.
Oui, en effet. Alors là, on rentre dans les questions générationnelles qui sont capitales pour comprendre les accidents de la route. C'est-à-dire qu'on est plus exposé quand on est jeune, inexpérimenté et un peu fier à bras au volant, il faut bien le dire. Et surtout quand on est un garçon, il faut le rajouter. C'est-à-dire que là, vous avez une distinction de genre qui est tout à fait primordiale dans le rapport à la sécurité routière. Et je ferai remarquer que les associations de défense de victimes sont bien souvent organisées par des femmes. Et il y a un rapport évidemment avec la maternité, il y a un rapport avec le respect de la vie qui est plus intense chez les femmes que chez les hommes.
En 2004, ça deviendra le permis probatoire, extrêmement fragile.
Voilà, un permis qui vise à responsabiliser plus encore les jeunes conducteurs.
Alors là, si vous commettez une infraction, on est en 2004, hein, coûtant 4 points, un stage de sensibilisation, un délit coûtant 6 points, une annulation, c'est qu'on est entré dans le temps, avant-dernière étape, du permis à points dont on fête les 20 ans.
On est.
Il a été imaginé sous Michel Rocard. Il entre en vigueur à l'époque du gouvernement, encore un gouvernement socialiste, Bérégovoy.
Georges Sarr communique. À l'approche du 1er juillet, date de la mise en place du permis à points, le ministre des Transports dévoile sa campagne. Une dizaine de messages diffusés à la radio, 5 millions de dépliants disponibles sur les routes ou dans les mairies, des spots télé dépourvus de morale où se mêlent originalité et humour.
Savoir conduire, c'est savoir vivre.
Les fautes, il en existe une ribambelle. Franchissement d'une ligne continue, moins 2 points. Alcool ou fuite au volant, moins 3 points. Quand vos 6 points se sont envolés, retour à l'autre.
Vous disposez de 30 minutes pour répondre aux 40 questions que vous avez inscrites sur les papiers.
Madame, excusez-moi, je voulais simplement vous dire que moi j'ai mon permis de conduire. C'est des malotrucs qui m'ont retiré mes points pour des raisons conjonctivistes. Et ça, c'est moche. Alors oui, sous prétexte que les dirigeants de nos pays ne sont pas en adéquation avec leur époque, c'est nous qui traquons. Mais non. Non, madame, je refuse. Oui, mais d'accord, mais je suis outré.
Il n'en demeure pas moins vrai que vous avez brûlé 5 feux rouges, et ça, c'est strictement interdit pour quiconque.
Il n'en demeure pas moins vrai que j'étais à 180 km/h et que le feu rouge, ça fait comme des petites lucioles quand ça passe.
Savoir conduire, c'est savoir vivre.
Jamel Debbouze qui parle des stages de récupération, pardon, des stages de sensibilisation à la sécurité routière. On se demandait avec notre réalisateur Jacques Sigal pourquoi il était dit au temps de Georges Sarr, 92, que les spots de présentation de cette institution nouvelle étaient dépourvus de morale. Mais quand on regarde le contenu des stages de sensibilisation, on comprend que la morale est remplacée, comment dire, par la moraline, vous savez, genre... examen de conscience par le curé de campagne au siècle dernier.
Vous n'avez évidemment pas tort. Toutefois, sensibilisation, c'est une chose, récupération, c'en est une autre. Récupération, j'attire votre attention sur le fait que ce sont des gens qui ont perdu leur point et qui, moyennant finance et un peu de temps, bien souvent une signature et peu importe ce qui se dit au cours de cette séance, vont chercher à récupérer leur point. C'est une spécificité française, d'ailleurs, on peut s'interroger là-dessus. La sensibilisation, c'est autre chose. Et là, naturellement, il y a toute une dimension assez particulière de la sécurité routière française qui, pendant longtemps, a compté sur un appel à la bonne conscience, à la responsabilité, à la courtoisie, enfin, à la prudence. Bon, et ces euphémismes, finalement, de la violence routière ont fait leur temps, très clairement, et on s'est rapproché des campagnes beaucoup plus percutantes et réalistes.
C'est-à-dire que c'est par l'émotion qu'on pense pouvoir provoquer une amélioration du comportement.
En tout cas, désormais, c'est quelque chose qui est reçu, qui est même par les publicitaires accepté.
Mais je suis sûr que vous aimez les stages de sensibilisation parce que vous appréciez les dernières structures égalitaires qui demeurent en France.
Vous parlez, je n'en ai jamais fait.
Service militaire, hélas, disparu.
Non, je n'en ai jamais fait. Toujours est-il qu'effectivement, il y a là un moment de brassage social, un moment où le PDG, riche conducteur d'une grosse voiture, a perdu quasiment tous ses points, et un jeune d'un certain quartier défavorisé, eh bien, se retrouve et se côtoie pour quelques heures. Donc effectivement, la route, c'est cela. La route, c'est la société française.
Les jeunes des quartiers défavorisés, si la question du permis de conduire est entrée dans la campagne présidentielle, c'est qu'un candidat a jugé qu'elle était populaire, mais que, en effet, elle marque les divisions dans la jeunesse. Il y a 50% seulement des 18-25 ans qui sont titulaires du permis de conduire. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités.
Alors, des inégalités voulues ou subies. C'est-à-dire que le rapport à l'automobile n'est plus le même. Mais cela se différencierait également selon les zones géographiques. La jeunesse rurale, de ce point de vue-là, doit être prise en considération. Et ce n'est pas faire du populisme que de rappeler qu'il y a des exclus de cette mobilité, qu'il y a des zones où le permis de conduire est un permis de travail. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez une insertion sociale et un brevet de citoyenneté, finalement, qui est conféré par le permis de conduire.
Bon, on ne va pas parler des solutions proposées par les uns et les autres.
Les élèves vont-ils avoir des cours de code de la route entre les classes de français et de maths ? Pour le principal syndicat enseignant, le SNES, c'est trop compliqué à organiser.
Est-ce qu'on transforme les lycées en auto-école, quoi ?
Autre question, comment choisir les écoles de conduite qui vont dispenser ces cours dans les classes ?
La méfiance que j'ai là-dessus, c'est sur la transparence qui va concerner les conditions dans lesquelles les auto-écoles vont être amenées à le faire. On le sait bien, ça va être du copinage, c'est de la magouille.
Alors les moniteurs défendent leur bout de gras, les inspecteurs vont jouer de leur position stratégique, quitte à se mettre en grève, ils sont 1300 et quelques, ils ne sont pas très nombreux, ils veulent être davantage. Et là, on va voir des candidats dire il faut tout privatiser, d'autres candidats dire il faut tout nationaliser.
Oui, il y a des hauts fonctionnaires. Gaspard Koenig, qui vient de publier chez Grasset un leçon de conduite, il a lui-même échoué à de nombreuses reprises au permis de conduire et donc il témoigne de son expérience et il proposait une réflexion et une réforme qui n'aboutira probablement jamais.
Alors ceux des candidats qui ont refusé d'entrer dans ce débat technique en disant que ce n'était pas de la compétence d'un président de la République ajoutent qu'il faut parler des questions du vaste monde, parlons davantage de l'Europe. Et si on terminait avec le permis européen ?
Disons que dès les débuts de la construction européenne, mais même avant, parce que cela procède de conventions internationales sur la circulation, les droits de circuler ont toujours été réglementés. Et naturellement, ça serait une belle chose qu'une unification totale de ces règles de conduite à l'échelle européenne, ce qui prendrait en compte les différentes cultures automobiles qui ne sont pas les mêmes en Allemagne, qui ne sont pas les mêmes en Italie, en Grande-Bretagne, en France.
Vous savez, ça va son chemin. En 2013, le permis biométrique, à cause d'une directive européenne que doit mettre en œuvre la France, celui qui présente son permis de conduire, doit être, Mathieu Flonneau, celui qu'il prétend être.
Le rapport avec l'identité, un papier d'identité est effectivement décisif. Et à l'échelle européenne, il est légitime qu'un jour ou l'autre, cette question soit posée.
Leçon de conduite de Gaspard Koenig et puis vos livres. Le dernier chez Descartes et compagnie qui s'appelle bien
L'autorefoulement et ses limites, raisonner l'impensable mort de l'automobile.
Merci à vous. Demain, nous parlons de l'Atlantide. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Dofar Guéride et Jean-Philippe Jeanne et à la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard et Camille Poux-Jalaguier. Il est 14h, vous écoutez France Inter.